France Musique. Musicopolis. Les quatre derniers leaders de Richard Strauss, des chants d'adieu. Le sait-il que ces quatre leaders composés au milieu de l'année 1948 seront ses chants d'adieu ? Peut-être. Il a déjà 84 ans et puis sa santé s'est affaiblie ces dernières années. D'ailleurs, il a cessé de donner des numéros d'opus à ses œuvres depuis qu'il a achevé son dernier opéra, Capriccio, en 1941. Enfin, quoi qu'il en soit, même s'il a encore écrit quelques petites pages après, pour nous qui voyons les choses avec le recul du temps, ces leaders sonnent bien la fin de la vie créatrice de Richard Strauss et même la fin d'une époque musicale. Richard Strauss n'a pas eu l'occasion d'entendre Kirsten Flagstad chanter ses quatre derniers leaders. Elle les a créés à Londres le 22 mai 1950 avec le Philharmonia, Furtwängler à la baguette. Strauss était mort 8 mois plus tôt, en septembre 1949. Bien sûr, cette version craque un peu. Et après ce petit moment d'authenticité historique, je vais passer à une version plus récente pour vous raconter la genèse de l'œuvre. Nous sommes en avril 1946. Strauss s'est exilé en Suisse depuis octobre 1945. Après avoir été interdit de voyager par le gouvernement nazi vers la fin de la guerre, il a été autorisé par les Américains à quitter sa villa de Garmisch, près de Munich, où il était confiné. Jusqu'en mai 1949, il va vivre avec son épouse Pauline à Montreux, dans trois chambres du Montreux Palace, faisant de fréquents petits voyages dans le pays à Baden, Uchi, Lugano, Pontresina, Zurich, etc. Le 3 avril 1946, Richard Strauss copie dans son carnet d'esquisses un poème de Joseph von Eichendorff, Im Abendrot, dans le rouge du couchant. Nous avons cheminé à travers détresse et joie, main dans la main. De notre voyage, nous nous reposons tous deux, maintenant, dans ce calme pays. Tout autour, les vallées s'inclinent, l'air déjà s'assombrit, seul vers les hauteurs, montent deux alouettes rêvant parmi les parfums de la nuit. Nous avons cheminé à travers détresse et joie, main dans la main. Nous nous reposons tous deux maintenant dans ce calme pays. Un texte qui doit parler à Strauss, qui correspond exactement à sa situation. Une fois copié le poème d'Eichendorff, sans doute commence-t-il à penser à une mise en musique. Mais il se réserve. Pour le moment, il travaille sur son duet concertino pour clarinette et basson, une petite pièce qu'il destine à l'orchestre de la radio suisse-italienne. Il semble que Strauss ait eu en tête un prétexte littéraire, un conte de fées, dont la clarinette et le basson figureraient les personnages. Mais il n'en a pas laissé de description. Quoi qu'il en soit, la musique est claire et joyeuse, elle virevolte comme si son auteur était dans un état d'esprit parfaitement insouciant. On se croirait vraiment à l'époque de Till l'Espiègle, composé par Strauss en 1894. Et pourtant, nous sommes bien après la Deuxième Guerre mondiale, 53 ans plus tard. Et si l'œuvre paraît insouciante, pourtant Strauss, aux côtés de son épouse Pauline, a traversé beaucoup d'épreuves depuis de nombreuses années, tout comme le couple du poème d'Eichendorff, Im Abendrot. Strauss termine son duet concertino en décembre 1947. À cette date, il a découvert la poésie de Hermann Hesse, dans un recueil que lui a offert son ami suisse Willy Schuh, qui sera l'un de ses premiers biographes. Il en a recopié quelques-uns dans son carnet d'esquisses. Mais pour le moment, il revient au texte qu'il a consigné voici 2 ans dans son carnet, celui d'Eichendorff, Im Abendrot. Une fois achevé ce lied, le premier qu'il compose directement pour chant et orchestre depuis très longtemps, Strauss se met à l'orchestration d'un ancien opus, Ruhe, meine Seele, de 1894. Repose-toi, mon âme. Tes tempêtes étaient sauvages, elles ont fait rage et elles ont tremblé comme le ressac quand il se brise. Ces temps sont violents, ils apportent au cœur et à l'esprit la détresse. Repose-toi, mon âme, et oublie ce qui te menace.
Yeah.
Si Im Abendrot évoque un couple qui a traversé main dans la main aussi bien les détresses que les joies, Ruhe meine Seele se concentre sur les détresses. On peut remarquer ces mots, les temps sont violents. En effet, l'après-guerre n'a pas encore refermé les blessures qui remontent à 1933. Pour Strauss, c'est le moment où il n'a pas réussi à prendre la mesure de ce qui se passait en Allemagne. Il n'a pas cru au régime totalitaire qui s'annonçait. Il n'a pas réalisé qu'il y avait là l'assassinat programmé de millions de juifs. Il a pensé qu'en ménageant le pouvoir en place, il pourrait faire quelque chose pour la musique allemande, la grande tradition de la musique allemande et de l'opéra allemand dont il se sent être le dernier représentant. En fait, Strauss n'a rien compris de ce qui se passait, il n'a eu aucun sens politique. Un de ses biographes parle à ce propos d'inertie intellectuelle. Il s'est compromis au début du régime nazi, par opportunisme et naïveté, en acceptant d'être en quelque sorte le compositeur le plus en vue du Troisième Reich. Mais petit à petit, sa position n'a plus été tenable et il s'est trouvé assigné à résidence, à Vienne d'abord, puis dans sa maison de Garmisch à la fin de la guerre. Bien sûr, il a dû se justifier ensuite et passer par les processus de dénazification. Voilà pour les temps violents. Mais en 1948, il rêve sans doute de jours meilleurs. Au cours de l'été, en villégiature dans le petit village de montagne de Pontresina, au sud-est de la Suisse, il s'attaque à un premier poème de Hesse. Frühling, printemps. Dans des antres obscurs, j'ai longtemps rêvé de tes arbres, de tes brises d'azur, de tes parfums et de tes chants d'oiseaux. Maintenant, tu es là, révélé dans ton éclat et ta splendeur, inondé de lumière comme un miracle devant moi. Connais, doucement tu m'attires, je sens à travers tous mes membres frémir ta présence divine. Les leaders ont une place importante dans le catalogue des œuvres de Strauss. Il en a composé depuis tout petit, le premier à l'âge de 6 ans. À 20 ans, il en a déjà une quarantaine dans ses cartons. Mais la floraison la plus importante a lieu à partir de sa rencontre avec une chanteuse, Pauline de Hanna, qui deviendra son épouse. Pendant une quinzaine d'années, ils vont donner des concerts tous les deux, elle chantant, lui l'accompagnant au piano. À 84 ans, lorsqu'il compose ses derniers leaders, elle est encore le catalyseur de son inspiration. Thank you. septembre. Le jardin pleure, la pluie froide coule sur les fleurs. L'été frissonne en silence à l'approche de sa fin. L'or goutte de feuille en feuille le long du grand acacia. À l'âge de 20 ans, Strauss répond à un questionnaire dans lequel il écrit que l'envie de composer lui revient instantanément lorsqu'il feuillette un volume de poésie. Et quand un poème reflète son humeur du moment, la musique lui vient immédiatement à l'esprit. Une réalité qui va perdurer jusqu'à la fin de sa vie. L'été sourit, étonné et alangui dans le rêve mourant du jardin. Longtemps encore, auprès des roses, il reste là, aspirant au repos. Lentement, il ferme ses yeux fatigués. S'il compose encore après 1941, après avoir terminé son dernier opéra, pourtant Strauss semble dire qu'il en a fini avec la création. En avril 1943, il écrit à son ami Willy Chou : « Le travail de ma vie s'est achevé avec Capriccio. Quelles que soient les notes que je griffonne à présent, ce sont des exercices de poignet qui n'ont rien à voir avec l'histoire de la musique. Leur seule fonction est de passer les heures avec un minimum d'ennui, puisqu'on ne peut pas lire Wieland ou jouer au scat toute la journée. » L'année suivante, il déclare à son petit-fils Richard qu'il préfère passer son temps à recopier des partitions de ses anciennes compositions plutôt que de fabriquer des œuvres originales mais séniles. En novembre 1944, il est tout à fait déprimé. Il écrit à son ami Mautner Markov : « Dans ma vie brisée, la famille est le dernier et unique rayon de lumière. L'œuvre de ma vie est détruite, l'opéra allemand ruiné, la musique allemande consumée dans l'enfer d'une machine. » où son âme torturée mène une existence misérable. Ma chère et belle demeure viennoise, qui était ma grande fierté, a été transformée en décombre et en cendres. Je n'entendrai plus jamais, ni ne verrai mes œuvres dans ce monde. J'aurais aimé que Mozart et Schubert m'aient appelé dans leur Élysée pour mes 80 ans. En allant dormir, Hermann Hesse. Maintenant que le jour m'a rendu là, il est temps que la nuit étoilée, en ami, accueille mon désir ardent comme un enfant fatigué. Mains, cessez toute activité. Front, oublie toute pensée. Tous mes sens maintenant veulent plonger dans le sommeil. Les poèmes que Strauss a choisis pour ses leaders de 1948 reflètent évidemment ses pensées et ses préoccupations du moment. L'âge venu, la fin de la vie, identifiée à l'automne ou à l'heure du sommeil. Pourtant, il n'y a pas d'amertume, pas de regret, plutôt l'aspiration à un ailleurs plus plein et plus riche. Et mon âme, sans surveillance, planera, les ailes libres, dans le cercle magique de la nuit, pour vivre mille fois plus intensément. Réflexion sur la vie, testament, chant d'adieu, c'est ainsi qu'aujourd'hui nous pouvons voir les derniers leaders de Strauss. Des leaders qu'il n'a pas conçus comme un cycle et donc pour lesquels il n'a pas donné d'ordre. C'est son éditeur, Boosey & Hawkes, qui les a publiés dans l'ordre qu'on suit généralement, en terminant par Im Abendrot, le premier qu'il a composé. Les quatre derniers leaders s'achèvent donc sur l'idée du crépuscule, le rouge du couchant. Ô vaste et calme paix, si profonde au couchant, comme nous sommes là tous deux de ce voyage. Serait-ce donc ceci, la mort ? Pour cette dernière interrogation, Strauss cite un thème de son poème symphonique « Mort et transfiguration », composé 60 ans plus tôt. Im Abendrot, le quatrième des quatre derniers leaders de Richard Strauss, poème de Joseph von Eichendorff, Soile Isokoski soprano avec l'orchestre de la radio de Berlin dirigé par Marek Janowski. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Élise Kravets pour les recherches et le site, Cédric Chatelus pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.